stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'écho des jeunes avec...
Avec Juliette.
Et avec Mathis.
Enchantée.
Enchantée.
Alors, est-ce que vous allez bien ?
Eh ben écoute, ça va, on arrive tout doucement vers les vacances. Quand vous écouterez, on sera en vacances scolaires déjà.
Enfin !
Bon après, peut-être que vous n'êtes pas étudiant, donc on vous souhaite en tout cas de passer un bon moment.
Fois, hein, on est en train de vous raconter notre vie, là, on est en vacances, alors que vous, peut-être
vous
pas. Alors, on vous envoie toute notre force. On vous envoie toute notre force.
Alors, aujourd'hui, pour le petit planning, nous allons commencer avec notre petite actualité. Du coup, je vais passer la main à Mathis.
Salut, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du GP Explorer. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le GP Explorer ? Est-ce que vous savez ce que c'est globalement, ce que le GP Explorer ?
Moi, je pense que je sais un peu plus. C'est une course, si je me prends les foudres, une course de voiture.
Oui, exactement.
Oui, j'ai à peu près la même idée du GP avec des influenceurs. Ceux qui ne savent pas, les influenceurs, c'est des... Alors.
Juliette, tu vas nous l'expliquer. Créateurs
de contenu.
Je suis en train de spoiler en fait la chronique.
Eh bien, c'est une course de Formule 4 organisée par l'influenceur ou le créateur de contenu, comme vous voulez, Squeezie, est disputée par une vingtaine de personnalités d'Internet, donc des streamers, des youtubeurs et des chanteurs même français et européens, avec notamment des pilotes anglais et espagnols qui ont participé cette année pour la troisième édition. Voilà,
éventuellement.
C'était le mot. Donc elle s'est étendue du 3 au 5 octobre au Mans et en diffusion en direct sur France 2. Alors peut-être que vous y êtes allé.
Attends,
donc,
c'était sur France 2 ?
Oui, c'était sur France 2.
Sur le service public français.
Ah purée, je savais pas, sinon j'aurais regardé.
Alors peut-être que vous êtes allé, en tout cas moi j'ai regardé du tout au long, c'était exceptionnel. Vous avez regardé ? Non, vous n'avez pas regardé, vous.
Bah, alors... Je ne savais pas, mais moi, j'ai un peu regardé parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un que je kiffais beaucoup, Léa et lui. C'est pour ça que j'étais à fond. Et Magla, en plus, elle était en duo, genre un duo de choc. Oui, moi, j'ai kiffé.
Oui, moi, j'ai eu quelques aperçus, notamment des vlogs, des récits de personnes sur Internet et aussi le super concert de Théodora. Oui, on se rappelle que ma dernière chronique était sur Théodora.
On a eu une édition en musique cette année avec beaucoup de concerts, notamment des rappeurs SCH et Théodora qui a fait une incroyable prestation.
C'était incroyable.
Alors en tout cas je vous conseille d'aller voir les rediffusions sur France TV sur la plateforme France TV ou sur Twitch et je vous souhaite pas bien sûr les grands gagnants, vous irez voir, mais ça vaut le coup d'œil.
Eh bien très bien.
Et il y a une musique qui est sortie en même temps que ce GP Explorer, donc je vous laisse avec En boucle d'Adèle Castillon et Zamdan.
Ça court les rues, ça court la nuit, ça prend la tête, ça brûle l'ennui. J'allume une clope, je vais voir une pote, je pense à toi. Toi tu fais quoi ? J'ai pris des notes de mon passé, toutes les erreurs à ne pas recommencer. J'ai pris mes peurs, je les ai jetées, et mes malheurs, tu les as tous gommés. On s'émerveille, yeux dans les yeux, on se dit je t'aime, l'air paresseux. Ça fait mille fois que ça me fait l'effet, ça fait mille toits dans mes carnets. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins mille fois que j'écris l'histoire en boucle. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses?
En plus, j'ai vu qu'Adèle Castillon, maintenant, elle sort avec Théodore.
Ah peut-être.
Ah ok, vous suivez pas toutes les actualités. C'est dommage.
Merci Soraya. Et ben, on va se déplacer pour nos petites infos culturelles, à la fois Soraya et à la fois moi, puisqu'on va se concentrer sur un terrain un peu plus local. Hein. On n'est plus dans le Mans, on est vraiment dans la Nièvre. Donc moi, je vais me concentrer sur les librairies de Nevers. Bon, vous allez vous dire, elle nous parle encore de livres. Et effectivement, je parle tout le temps de livres.
C'est vraiment envie de lire.
C'est vraiment essentiel dans ma personnalité. Bon, c'est plus trop la rentrée littéraire, mais on se dirige progressivement vers les fêtes, le froid, etc. Donc, on a besoin de cadeaux pour se réchauffer. Et quelle bonne idée d'acheter un livre. Le temps nous manque cruellement en fait pour nous plonger dans une bonne petite soirée avec une bougie, un petit livre. Et puis pourtant la littérature en fait elle est multiple et on peut toujours trouver du temps pour lire parce qu'il y a plein de formats pour lire, des romans graphiques, des journaux, des romans, des BD, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Et c'est pas forcément une bible de 2000 pages sur la table de chevet. Donc ma petite présentation culturelle du jour, c'est une mise en valeur de Nevers et de ses librairies. Parce que je trouve qu'on va trop souvent vers le plus facile pour trouver des livres. En fait, on n'est pas curieux des livres. Souvent, on va vers le plus facile, donc ce qui nous est recommandé sur Internet, etc. Ou on va sur Amazon. Et puis pourtant, il y a plein de choses qui sont à proximité.
Je trouve en vrai, sur les librairies, j'ai connu une petite librairie, je la spoil pas, je sais que t'en parles après, mais j'avais un peu ce préjugé de les librairies, c'est plus cher, si j'y vais, je dépenserais tellement, je pense pas que je pourrais y aller, du coup, je me rebattais sur Amazon, la Fnac, des petites choses comme ça, et alors que tu vas nous en parler, je pense que en vrai, les librairies, elles sont hyper bien aussi, le confort, j'aime bien.
Donc oui, effectivement, parce qu'il est important de rappeler qu'en France, encore heureux, le prix du livre est partout pareil.
Oui.
Peu importe la surface où on l'achète. Donc, il n'y a rien qui avantagerait plus Amazon qu'une librairie. Surtout qu'on a encore la chance d'avoir quelques librairies ouvertes et que dans beaucoup d'endroits, malheureusement, les librairies sont en crise et elles ferment de plus en plus. Et donc, moi, je vais commencer par vous parler du Cyprès, que vous connaissez sûrement,
oui,
qui est la librairie la plus connue de Nevers. Donc, c'est une façade jaune, chaleureuse, à côté d'une célèbre boulangerie. Donc, si vous voulez vous offrez un petit peu de gourmandise en même temps. Et le Cyprès est toujours accompagné de Jean de la Lune, donc qui est spécialisé dans la littérature jeunesse. Donc c'est vraiment une volonté de transmettre la beauté des mots, des images, de créer des petites constellations d'imagination pour nos jeunes et pour nos moins jeunes. Moi, ce que j'apprécie le plus, je pense que c'est les recommandations des libraires. Donc on connaît tous les petits post-it qui permettent justement aux libraires de nous transmettre aussi leur point de vue sur les livres et de pas seulement se contenter de notre zone de confort. Et c'est aussi l'objet de la deuxième librairie de Nevers qui a ouvert un peu plus récemment, donc qui s'appelle Les Audacieuses. Je sais pas du tout si vous connaissez.
J'ai vu des affiches sur ça, mais je vois pas où c'est. Pardon.
Ouais, c'est en centre-ville, hein, après, basiquement. Et l'audace, c'est de braver les habitudes. C'est de sortir de sa zone de confort. Et ici, le but de cette librairie, donc, c'est principalement de l'engagement. Donc, évidemment, on peut cumuler le réconfort d'un café et d'une petite gourmandise locale parce qu'il y a tout un endroit en fait où goûter en lisant des livres.
Ça j'aime bien. Genre, je pense que c'est important pour l'hiver d'avoir son petit café, petit plaid, son livre.
Le thé café chocolat chaud est complémentaire du livre, je pense.
Oui, je pense que ça va vraiment ensemble.
C'est une entité,
ensemble, en fait.
Plus une petite bougie, je pense que...
Et puis du coup, là, pareil, on a une implication des libraires qui est très forte avec des sélections qui dépassent en fait souvent nos représentations de la littérature parce que là on a du féminisme, de l'écologie, des choses sur la sexualité, la lutte contre les discriminations, à côté de plein d'autres petites choses parce qu'on a aussi des BD très cocooning, très à l'aise, donc il y en a pour tous les goûts. Et j'aimerais finir par un petit bonus en vous présentant la médiathèque, donc qui rentre pas dans les librairies puisqu'elle fait partie de fort d'une gouvernance étatique, c'est public. Mais pour moi, c'est un point de passage essentiel et important à Nevers. Alors, si vous me cherchez, vous me retrouverez sûrement à la médiathèque, en fait, à Nevers.
Mais pas en train de travailler, plutôt en train de dormir.
Éventuellement en train de dormir sur la table. Mais en fait, elle est d'autant plus importante parce qu'elle est ouverte à tous les milieux sociaux grâce au système d'emprunt. et elle offre vraiment un lieu de travail aux étudiants, aux salariés, et il y a un petit rituel pour les enfants, oui. Parce que par exemple, si vous y allez le mercredi, vous verrez qu'il y a les...
aussi, ouais, c'est trop ça. Mignon.
Il y a vraiment des petits-enfants, et puis souvent, c'est en collaboration avec les écoles. Donc,
ouais, même je pense pendant les vacances, il y a des petits ateliers manuels ou des livres. Mm-hmm. C'est hyper bien en plus, parce que les jeunes, si je ne me trompe pas, la carte, tu peux l'avoir gratuit.
Oui.
Du coup, genre, je trouve ça hyper bien. En vrai, il y a plein de choses, il y a même des ordinateurs, si tu as envie de faire des travaux ou autre, genre je trouve on a une bonne médiathèque, je trouve, à Nevers, bien riche avec plein de choses. Du coup, allez à la médiathèque.
Oui, voilà, allez à la médiathèque et transmettez la littérature, parce que c'est tellement important, et j'y reviendrai dans l'émission un peu plus tard, avant de passer la parole à Soraya pour qu'elle nous parle aussi de la Nièvre.
Alors moi, je vous passe la main pour vous parler de la Nièvre avec un grand avantage à mon goût. Comme Juliette l'a bien mis en valeur, la Nièvre, elle est riche. Et moi, je veux vous montrer une richesse incroyable. Laissez-moi vous parler de la carte avantageuse. En plus, regardez, je l'ai reçue, elle est pas trop belle.
Elle est vraiment belle, j'avoue qu'elle est vraiment très très
belle. Merci, j'aime beaucoup aussi les motifs. Alors, c'est un vrai bon plan, la carte avantageuse de la Bourgogne-Franche-Comté. En plus, plus précisément celle de la Nièvre. Franchement, c'est une carte révolutionnaire à mon goût. Elle propose environ 4000 bons plans et 130 à 200 avantages.
T'as les statistiques.
J'ai les stats. Genre, quand même, 4000 bons plans, moi, je dis pas non. En plus, elle propose des bons plans dans plusieurs domaines. La culture, que ce soit les spectacles, les cinémas, les musées, le sport, la salle de sport, les licences de sport à réduction, les loisirs, les canoës. Bon, je pense pas que les gens vont faire du canoë dans ce froid.
Alors, peut-être pas à cette époque.
Mais bon, peut-être si en été, le basket, les sorties, vraiment plein d'ateliers, que ça soit aussi dans les commerces, les restaurants, les magasins, dans la vie quotidienne, bref, partout dans la Bourgogne-Franche-Comté. Et quand tu l'achètes dans la Nièvre, t'as un petit carnet, regardez, aussi très joli, assorti à la carte, avec des bons, par exemple, moins 12% pour la place de cinéma, ou pour le repas, ou pour le mixec dans des restaurants, juste incroyable. C'est hyper ouf d'avoir une carte comme ça. En plus, vous avez un avantage que je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens. Comme elle est en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez la possibilité de faire un aller-retour Nevers. Ça veut dire l'aller est payant et le retour est offert. C'est hyper bien.
Et ça, par contre, c'est vraiment très très bien. Surtout qu'on connaît les difficultés pour se déplacer en fait en zone rurale et pour avoir accès aux services. Donc ça, c'est vraiment
hyper bien. Si vous voulez aller dans des magasins qu'il n'y a pas peut-être chez vous ou autre, vraiment, moi je pense que c'est un bon avantage.
Est-ce que tu peux nous rappeler les âges pour accéder à la carte
avantageuse? Mais Juliette, arrête de spoiler. C'était dans la suite. Oh, bon. Je vous rappelle les petits avantages pour avoir la carte. Déjà, il faut avoir moins de 30 ans. Excusez-moi, les plus de 30 ans, vous ne faites pas partie de la team. Si vous connaissez des personnes, à la limite, vous pouvez proposer. Du coup, il faut juste seulement avoir moins de 30 ans et aller au Bige. Le Bige à Nevers, c'est vers la boussole à côté du parc Salengro. Et hélas, la carte a un prix. Mais écoutez bien, elle est juste à 10 euros. Et si vous possédez le pass culture, vous pouvez payer avec. Du coup, techniquement, elle est gratuite, vous sortez rien de votre poche. Du coup, n'hésitez pas. Et aussi dans le carnet ou dans la carte avantage jeune ou même dans le Bige, on vous propose des aides comme l'aide au permis, la proposition du pass international, le BAFA, vraiment plein de choses. Allez au Bige, renseignez-vous. Prenez votre carte avantage jeune parce qu'il y a beaucoup d'avantages, même pour les hypermarchés, si vous voulez faire vos courses. Comme ça, vous allez avoir des réductions et plein d'activités à bas prix. Et ça, je trouve ça important de continuer à avoir une culture, pouvoir faire des activités. Et si on a des réductions, bah, on ne dit pas non. Hein.
On ne dit pas non.
On accepte.
On accepte. Et je pense qu'il faut rappeler quand même que le Bige, c'est le bureau d'information jeunesse.
Ça veut dire si vous avez aussi des questions autres, n'hésitez pas vraiment.
Alors contactez pas nous,
oui,
mais
bah
le Bige.
Oui, le Bige. Hein.
Parce que
nous là, on ne sait rien dire.
Bon, même si Soraya est quand même relativement une experte dans le domaine, hein, que on peut le rappeler. Donc avant de passer à la suite de notre émission, on va faire une petite pause musicale après avoir adressé toutes nos
petites infos actuelles,
nos petites informations et nos petits amours en fait pour tout ce qui se passe dans la Nièvre et en dehors de la Nièvre dans le GP Explorer. On va partager cet amour avec la chanson Quelques mots d'amour de Michel Berger.
Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. ce sentiment bizarre que je suis seul. Parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal, je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport, je t'envoie mes plus belles victoires. L'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde sera remplacé. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, jour d'aéroport, je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village sans à l'heure, où les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour.
On est toujours sur l'écho des jeunes et c'est moi, c'est Mathis qui vais faire cette première chronique. Je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on va vous parler après ou avec ce qu'on a parlé avant. Aujourd'hui, nous traversons les rivières de Jade, les montagnes embrumées et les palais célestes pour explorer les mystères de la mythologie chinoise. C'est plus qu'une simple collection de récits. La mythologie chinoise est une immense tapisserie de dieux, de dragons, d'étoiles et d'immortels. Elle s'est construite au fil des dynasties, mêlant le taoïsme, le bouddhisme et les croyances populaires dans un équilibre délicat entre le ciel et la terre. Et comme dans toute grande mythologie, tout commence par le chaos. Au tout début, il n'y avait rien, qu'un œuf cosmique, et de cet œuf naquit le géant Pangu, qui sépara le ciel et la terre avec une hache titanesque. Il tiendra le ciel à bout de bras pendant 18 000 ans, et quand il mourut, son souffle devint le vent, ses yeux, le soleil et la lune, et son corps, les montagnes et les rivières. Il était devenu le monde, la terre des hommes. Et puis vient Nuwa, la déesse à tête humaine et à corps de serpent, grande créatrice de l'humanité. Elle façonne les premiers êtres humains à partir du beau jaune. Une version dit qu'elle les a sculptés un à un avant de se laisser et tremper une corde dans la boue pour accélérer le processus. Ce mythe est souvent interprété comme une allégorie des classes sociales. Se modeler à la main sont les nobles et les autres, le peuple. Et puis, comment parler de la Chine mythologique sans évoquer les dragons? Symboles de puissance, de chance et de sagesse, ils sont partout. Et contrairement aux dragons occidentaux, ce ne sont pas des créatures malfaisantes, mais bien des entités protectrices capables de contrôler les éléments, notamment l'eau et les pluies. Mais au-delà des grands dieux créateurs et des créatures légendaires, il y a une histoire en Chine qui fait battre le cœur de chacun. Une fois la nuit tombée, c'est celle de Shang-Yi et Ouyi. Il y a très longtemps, 10 soleils s'élevèrent dans le ciel, brûlant la terre, frétrissant les cultures, asséchant les fleurs. Le monde était au bord du chaos. Seul un héros osa défier le ciel. Ouyi, un archer de légende, des flèches puissantes, il abattit 9 des 10 soleils, ne laissant qu'un seul pour éclairer le monde. Pour cet acte héroïque, les dieux lui offrirent un élixir d'immortalité. Mais Ouyi n'était pas avide de l'éternité. Il voulait vivre aux côtés de son épouse bien-aimée Shang-Yi. Belle comme la lumière d'automne, il lui confia donc l'élixir, le gardant pour un jour lointain. Mais le destin, comme souvent, en avait d'autres plans. Un jour, alors que Ouyi était absent, un homme cupide tenta de voler l'élixir. Pour l'en empêcher, Shang-Yi le but. Immédiatement, elle devint légère comme l'air et s'éleva dans le ciel et s'envola vers la lune. Cet endroit était assez pur pour accueillir son âme. Depuis ce jour, elle vit là-haut, solitaire, dans son palais de jade, accompagnée seulement d'un petit lapin blanc, le lapin de jade qui broie sans cesse des herbes d'immortalité dans un mortier divin. Chaque année, lors de la pleine lune de mi-automne, Ouyi dépose des offrandes sous le ciel, en souvenir à son amour perdu. Et le peuple chinois, touché par cette histoire, en fit une fête, la fête de la lune, où les familles se réunissent contemplant la lune et se rappellent de Shang-Yi, la déesse silencieuse qui veille sur le monde depuis le ciel. Et voilà, la mythologie chinoise, c'est tout cela, c'est une immense fresque où les légendes se croisent, où la sagesse taoïste flirte avec le merveilleux, des récits où l'amour côtoie la tragédie, où les dieux vivent parmi les hommes et où chaque montagne, chaque rivière, chaque lune porte un morceau de légende. Alors la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers la lune, regardez bien, vous y verrez peut-être l'ombre d'une silhouette gracieuse ou le profil d'un lapin blanc en train de broyer des élixirs éternels. C'était tout pour moi.
Waouh, c'était magnifique.
Alors, t'as vraiment un don pour la narration.
Ah ouais, cette chronique a été incroyable. Ah. Alors,
c'est peut-être pas un livre, mais franchement, niveau imagination, on est plutôt pas mal.
Et je veux un livre de ça, en fait.
Je pense que c'est possible de le trouver, éventuellement.
Ah oui, il y a énormément de documentation.
Ah, je connaissais un peu tout ce
un
qui
film.
Était...
Sur la déesse de la lune. Moi j'ai un film, je crois, un dessin animé sur la déesse de la lune.
Moi je connaissais une série parlant de la mythologie des dragons. Ça reprend, c'est Witch, si je me trompe pas. Il y a un épisode où il reprend, c'est les dragons qui fait la nature. Je connaissais pas jusqu'à la suite, l'histoire d'amour. Mais Mathis, c'était incroyable. Je veux dire, je restais sous le choc.
J'espère que vous êtes transcendé par la chronique de Mathis.
Vraiment.
Et que vous y penserez en regardant la lune. Déjà, prenez le temps.
De regarder la lune, c'est important.
Prenez le temps de regarder.
On a la chance d'être
dans
une campagne où on peut voir les étoiles, et ça c'est très important. Regardez la lune.
On a parlé de culture asiatique, donc éventuellement Soraya, est-ce que tu aurais pas quelque chose à rajouter sur ce sujet?
Ah, peut-être que je vais essayer de continuer l'atmosphère dans l'Asie. Et si on parlait de matcha? Vous allez me poser la question, mais c'est quoi du matcha? Peut-être que vous répondrez, c'est une poudre verte, c'est les choses là qu'on voit dans les vidéos, les filles qui se lèvent à 4h du matin, faire leur skincare, le pilates, et boire leur petit matcha latte. Mais savez-vous réellement ce que c'est le matcha?
Plus ou moins.
C'est une purée verte, non?
Pas purée. Poudre peut-être. Alors,
tu vas nous expliquer.
Parce qu'il y a beaucoup de clichés sur cette histoire. Mais rappelons que le matcha est une histoire, une culture. Parce que même si je vous en parle, moi aussi j'ai été influencée par tous les petits feeds TikTok du matcha et de la clean girl, je l'avoue. Mais bon, arrêtons le blabla et parlons matcha. Le matcha, c'est un thé vert poudreux qui vient du Japon. Il a une couleur verte très vif et reconnaissable. Il est utilisé pour les cérémonies de thé japonais. Mais attention, ce n'est pas juste du thé. La cérémonie du thé appelée, excusez-moi pour l'accent, Sado, c'est un art, une philosophie, un moment de paix intérieure. Elle remonte à peu près au 15e siècle. Elle vient du bouddhisme zen. Le but n'est pas seulement de boire du thé, mais de se concentrer et de vivre le moment présent, de méditer sur soi en buvant ce thé. Les valeurs de la cérémonie sont l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. Tous les outils qui sont utilisés pour faire le matcha sont des outils très populaires. Du coup, on oublie tout ce qui est les classes sociales, le luxe, ça dehors. Pendant la cérémonie, un maître ou une maîtresse du thé, appelé Tissue, prépare le matcha avec soin, lenteur, douceur. Il verse de l'eau chaude, il fouette avec un fouet en bambou spécial. Ils ont aussi un récipient spécial. Je ne dirai pas le mot en japonais. Jusqu'à ce que ça crée une mousse verte. Tous ces gestes du maître ou de la maîtresse sont des gestes médités, calmes, précis pour vraiment être en harmonie avec le moment du thé. Je ne saurais pas expliquer, mais quand on voit les vidéos, c'est vraiment un lieu reposant. On écoute le thé, on écoute qu'est-ce qui est autour de nous. C'est réellement une méditation.
Ah, c'est vraiment un rituel, quoi.
C'est ça, c'est un rituel. C'est tellement beau.
C'est plus que culturel qu'au niveau gustatif, finalement, du matcha.
C'est ça, c'est vraiment un moment à passer. En plus, c'est tellement accueillant comment la cérémonie, elle est faite. Souvent, c'est dans des jardins, sans téléphone, sans bruit, à part le bruit du thé qui est en train de être fouetté. C'est juste incroyable. Et en plus, en accompagnement de ce petit matcha, on a la possibilité de goûter à une petite douceur japonaise appelée le wagashi. Du coup, la prochaine fois que vous verrez un de vos amis ou dans votre feed d'actualité un matcha latte ou des gâteaux avec du matcha, repensez-y à deux fois que c'est plutôt une connexion avec le matcha que vous devez faire. Quand vous fouetterez votre petit matcha, pensez au bruit, au mouvement, à la mousse qui est en train de créer. Alors maintenant, je vais passer à une petite pause musicale. Et là, ce qui n'a rien à voir avec le matcha, mais pour la petite anecdote, cette musique, je l'ai écoutée pendant que je buvais pour la première fois mon matcha maison. C'est Pa de Tini. Peut-être que vous la connaissez aussi sur le nom de Violetta. Alors laissez-moi vous glisser sur cette douceur de musique avec un petit matcha, j'espère.
Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios, decirte adiós no me salía. Y todo el mundo preguntando cómo estaba. Y yo deseando estar en el lugar que estabas. El mundo seguía girando, pero no pa' mí. Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir. Siempre fuiste tú lo mejor. Mejor de mí, me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí por un ratito más. Porque sigues aquí. Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te parte de ti. Porque soy parte de ti. Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero. Busqué palabras para decirte, pero se escondieron. Yo he escrito canciones de amor, pero nunca el primero. Y tú desde el 97 sabes que te quiero. Y entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme. En otra vida tú fuiste mi ángel. Y en esta sin ti ya no hay Buenos Aires. Me enseñaste de todo, pero no a soltarte. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí por un ratito más. Porque sigues aquí. Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te parte de ti. Oh, 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 oh.
à tous. On se retrouve encore sur l'écho des jeunes pour la suite de l'émission. Donc après avoir une chronique, enfin des chroniques endiablées très culturelles sur le matcha et sur la mythologie chinoise, on passe sur un autre continent. On va plus du tout être sur l'Asie. Moi, je vais vous emmener à la fois en Amérique du Nord et à la fois en Europe. On va suivre dans notre voyage...
On bondit.
On bondit doucement quand même. On va suivre dans notre voyage la biographie d'un homme. Un homme qui s'appelle James Baldwin. Alors, je ne sais pas du tout si vous le connaissez.
Non, moi, personnellement, non.
Vous reconnaîtrez sûrement des noms dans son aventure, dans son parcours qui n'est pas en fait si original que ça, puisque c'est celui de nombreux artistes afro-américains des années 20. Donc, c'est dans le domaine de la littérature pour changer. Donc, il est né en 1924 dans le quartier défavorisé de Harlem. Donc, c'est non loin des lumières de New York. Et pourtant, c'est vraiment un quartier de seconde zone à l'époque, avec peu d'accès aux services et une répression violente. Puisque vous avez reconnu les années 20 en Amérique du Nord, c'est la période de la ségrégation, c'est la période du lynchage contre les Afro-Américains.
Ouais.
Donc évidemment, ça va marquer son parcours, même s'il est très jeune. Il va devenir un symbole d'intégration, un auteur célèbre, et une suite de mots qui va bouleverser les ordres sociaux établis. Donc c'est des mots qui sont très chers à mon cœur. L'histoire n'est pas le passé, c'est le présent. Nous portons notre histoire avec nous, nous sommes notre histoire. Et si nous prétendons le contraire, nous sommes littéralement des criminels. Et c'est ce qu'a déclaré James Baldwin. Et si je fais cette présentation, c'est que je suis intimement convaincue que Baldwin fait partie de cette histoire. Et qu'il devrait être plus reconnu en Amérique du Nord, mais aussi en France.
Oh, les mots qu'il dit qui sont quand même forts.
C'est quand même des mots qui sont très forts parce que je pense qu'il était conscient en fait de tous les enjeux qui entouraient son écriture. Puisque ce n'était pas seulement des enjeux de discrimination raciale, mais James Baldwin était aussi homosexuel et il s'est battu en fait, pour le faire reconnaître dans ses écrits. Il combattait pour les droits civiques et il avait compris que la discrimination était inévitable parce qu'elle était ancrée dans le regard des autres, le regard que les autres portaient sur lui. Et qu'il l'avait intégré dans son enfance. Il avait intégré toute cette discrimination, ce racisme. Et il essayait de la faire ressortir par l'écrit et la dénoncer par l'écrit. En fait, Baldwin ne fait pas seulement partie de l'histoire américaine, c'est une histoire aussi mondiale, puisque il s'est aussi expatrié en France. S'il a grandi dans la violence et l'exclusion, il n'était pas le seul, puisque son chemin est parsemé de grands noms, notamment du milieu artistique de Paris dans les années 50. Donc on peut penser à Josephine Baker, que cette fois, vous connaissez.
Qui est au Panthéon.
Ou Maya Angelou, à qui on pourrait dédier des chroniques entières. Hein. Ce serait super long quand même.
Future chronique.
Donc je veux vous faire écouter, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, un extrait de J'ai deux amours de Josephine Baker.
J'ai deux amours, mon pays est Paris. Toujours mon cœur est ravi.
Donc en France, il va goûter la liberté, mais aussi il va sentir le devoir de rejoindre sa patrie, de rejoindre le mouvement des droits civiques, poursuivi par un certain Martin Luther King, de l'autre côté.
Un peu connu aussi également.
Ça me dit un petit truc.
Évidemment. Ou encore Malcolm X, pareil, vous connaissez, je ne représente pas. Donc l'écriture rythme sa vie jusqu'à ce qu'il meure en 1987. Donc comme j'ai pu le rappeler au début de cette émission, la lecture c'est aussi une aide pour comprendre le monde, pour mieux vivre. Et donc j'aimerais vous conseiller la lecture de Baldwin sous cet angle. Car notre réalité en 2025 peut se connecter aux mots de James Baldwin. Et voici quelques pistes. Donc déjà il y a toutes les questions identitaires. Donc le rejet, il est au cœur de notre société et je vous apprends rien en le rappelant. Et il est ultra important de comprendre comment accepter l'autre sans l'opposer à notre identité, sans le rejeter. Est-ce que les cultures doivent être strictement séparées ou est-ce qu'on doit les rassembler? Est-ce qu'on doit conserver nos frontières culturelles? Est-ce que la politique de l'amour, comme l'aurait sûrement défendu James Baldwin, c'est la voie pour justement... aller vers une société où il y a plus de paix. Donc je vous conseille notamment la lecture de La Chambre de Giovanni, au moins d'extrait de ce livre, puisqu'il va questionner notamment l'homosexualité et la façon dont on peut se mettre à la place des autres et être empathique avec eux. Évidemment, il y a aussi la question du racisme dans ses écrits, qui, vous l'avez compris, est essentielle. Hein, puisque pour lui, la société, en fait, il serait ironique de considérer la société comme universaliste, puisque chaque personne a son expérience propre et qu'il faudrait justement inclure toutes ces expériences et ne pas les effacer sous couvert d'un universalisme. Surtout que pour lui, c'est complètement ironique de faire semblant de ne pas voir les couleurs, de ne pas voir les frontières dans la société, puisque tout le monde en est conscient. Ouais. On peut faire notamment le parallèle avec le débat sur l'interdiction du terme race dans la loi française, ou encore la façon dont pourtant il est toujours utilisé dans les pratiques dans notre société, notamment dans la discrimination à l'emploi, dans la discrimination au logement ou dans le racisme banalisé de tous les jours. Hein.
C'est vrai. Ouais. Ah, peut-être aussi le racisme banalisé, j'imagine, un racisme que peut-être on peut oublier ou comme il est banalisé, on ne le voit pas suffisamment. Je trouve important des petites lectures comme ça, de se dire que peut-être que c'est possible dans notre vie de tous les jours, on ne soit pas, si je puis dire, safe sur tous les sujets. Et peut-être de le comprendre et se dire, j'ai fait mal, mais je peux le changer. Je pense que c'est important, ces petites lectures, ces remises en question, même identitaires, de des fois juste se poser avec son matcha.
Évidemment, se remettre en question, c'est prendre du temps pour réfléchir, et c'est ultra important parce que notre société, elle va à 1000 à l'heure.
Ouais.
Et c'est aussi re-questionner et se mettre à la place des autres. Je pense que c'est l'important dans la littérature et aussi dans l'ouverture culturelle que vous avez partagée aujourd'hui, hein, au travers du matcha et de la mythologie chinoise, de se mettre à la place des autres et d'ouvrir un peu son esprit. Et je pense que c'était vraiment la pensée de James Baldwin qui se battait contre une pensée unique. Et du coup, j'espère que cette chronique vous aura encouragé à lire ou à vous renseigner sur lui. Puisqu'il a participé avec éloquence à beaucoup d'émissions télé. Donc si vous n'êtes pas friand de littérature, vous pourrez quand même retrouver des extraits de James Baldwin qui sont très philosophiques, vous le verrez.
Mettons entre 5 et 7 ans, il y a quelqu'un qui dit il ne faut pas jouer avec ce garçon-là parce qu'il est noir. Oui. À ce moment-là, on se rend compte de quelque chose qu'on ne comprend pas du tout.
Oui.
Mais on est tellement blessé, on se rend compte qu'il y a une distance. Et dès à partir de ce moment-là, on est dans le bain.
Et donc, je vous remercie pour cette chronique.
Merci à vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses.
On se retrouve le mois prochain.
Le mois prochain. Merci.
Et on vous laisse sur une petite pause musicale, donc qui fait aussi partie de l'histoire afro-américaine des États-Unis, avec I Wish I Knew How It Feels to Be Free de Nina Simone.
Ah, trop bien. Bisous, au revoir.
Bisous.
Au revoir.
Say I'm loud, say I'm clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing. I wish I could do all the things
same.